Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Bernard Cassen.
Pour la deuxième fois, donc, il est directeur général du Monde diplomatique, professeur émérite à l'Institut d'études européennes à Paris 8. La raison pour laquelle on parle de l'Europe ces derniers temps, c'est le fait qu'on va être appelé, paraît-il, à statuer, nous Français, enfin décider ce qu'on pense sur le traité constitutionnel. Il y a un petit truc que j'ai pas compris dans cette histoire, c'est qu'on nous dit que finalement ça a très très peu d'importance, ce traité constitutionnel, d'une certaine façon, puisque il ne fait que reprendre des traités précédents. Alors, traité de Maastricht, si j'ai bien compris, mais il y en a eu d'autres derrière, Amsterdam, Nice, et puis la charte des droits fondamentaux. Alors, qu'avaient apporté ces traités précédents après celui de Maastricht? Et puis, est-ce que, effectivement, le traité constitutionnel ne fait que reprendre ce qui avait déjà été entériné précédemment?
Alors, après le traité de Maastricht, à l'époque de Maastricht, il y avait 12 membres de la communauté européenne qui est devenue, après Maastricht, l'Union européenne. Elle a changé de nom. Depuis le 1er novembre 1993, on parle de l'Union européenne. Parce que le traité de Maastricht élargissait les compétences, je dirais, de l'Union à d'autres domaines que l'économie, et en particulier aux affaires judiciaires et policières, et à la politique étrangère et de sécurité commune, en théorie, tout ça. Bien. Mais c'est l'élargissement tout court de l'Union qui entraînait une révision de ses méthodes de fonctionnement. En 1995, il y a eu 3 nouveaux pays qui ont adhéré, la Finlande, l'Autriche et la Suède. Et des institutions qui avaient été à l'origine conçues pour 6 pays fonctionnaient mal à 12 et encore plus mal à 15. Et donc il a été décidé d'actualiser, de rénover les institutions pour que ça marche mieux. Mais les deux traités suivants, aussi bien celui d'Amsterdam en 1997 que celui de Nice en l'an 2000, n'ont finalement pas abouti à ce résultat. Et leur contenu n'a pas un très grand intérêt. D'ailleurs, ils n'ont pas été soumis à référendum en France, ils ont été soumis à référendum dans d'autres pays. Alors, pourquoi le traité constitutionnel qui s'appelle abusivement, qui s'autoproclame une constitution? S'il ne servait vraiment à rien, c'est pas la peine d'en parler à ce point, ni de le soumettre à un référendum comme Jacques Chirac l'a décidé le 14 juillet dernier. Non, ce traité est extrêmement important. Alors, d'une part, il reprend en son sein tous les traités précédents. Je dirais que les autres n'ont plus d'existence, puisque il y avait un empilement de traités. Là, il n'y a plus qu'un seul traité qui reprend les dispositions de tous les autres traités. Les reprend ou parfois les actualise. Mais il n'y a plus que celui-là. Alors, ce traité-là, il visait, selon les désirs du Conseil européen, qui est le sommet des chefs d'État ou de gouvernement, qui s'est réuni en décembre 2001, à Bruxelles, à rendre les institutions plus lisibles, plus claires, et à théoriquement rapprocher l'Europe du citoyen. Il le fallait d'ailleurs, parce que on a vu qu'en 1992, lors du référendum sur le traité de Maastricht, le oui ne l'a emporté que de 1%, avec 6% de blancs et de nuls, ce qui est un record. C'est-à-dire que les citoyens ont d'un seul coup découvert que l'Europe existait et qu'ils étaient dedans. Je suis pas sûr qu'on en ait encore pleinement conscience. Je disais la semaine dernière que 70% des lois qui nous régissent sont des lois d'origine européenne. Donc la dimension européenne, elle est plus importante même que la dimension nationale ou la dimension locale ou régionale en termes de contenu. Donc tout citoyen français, et j'en dirais autant pour les autres évidemment, doit s'intéresser prioritairement à cette dimension-là, parce que c'est la plus influente, la plus importante. Donc le petit oui de Maastricht montrait une désaffection ou une désaffection face non pas à l'idée d'Europe, mais aux politiques européennes qui ont été menées et qui ont été en permanence des politiques nous incitant à la rigueur, à la déréglementation, à la privatisation, à la flexibilité, etc., etc. C'est ça, pour le citoyen lambda, l'Europe, c'est aujourd'hui ça. Et je continue d'ailleurs là-dessus, lors des élections européennes du 13 juin de cette année, l'abstention a atteint des niveaux records. Plus de 50%, en moyenne 56% je crois, sur l'ensemble de l'Union, des 25 pays. Et avec des records absolus dans les nouveaux entrants, les nouveaux pays, ils ont même pas voté, ils ont voté à 20%. En France, seuls 20% des jeunes ont voté. Seuls 20% des ouvriers ont voté. Ceci traduit une méconnaissance, une indifférence, voire une hostilité aux politiques européennes qui sont menées. Et il est ahurissant que le soir des élections, tout le monde dit oui, c'est très grave, etc. Et puis deux jours après, ça y en a oublié, c'est reparti comme avant, comme s'il n'y avait pas eu ce test en grandeur nature. Alors, le traité constitutionnel européen, ou la constitution européenne, puisqu'elle veut s'appeler comme ça, donc récapitule tout ce qui a été déjà décidé en matière de politique sectorielle, mais ajoute des choses nouvelles. Effectivement, en matière institutionnelle, il y a une certaine rationalisation qui est proposée, une certaine stabilisation. C'est ainsi, par exemple, que le Conseil européen, c'était cette réunion des chefs d'État et de gouvernement qui se réunit 4-5 fois, 6 fois par an, sous la présidence du pays qui préside l'Union, aura désormais un président permanent pour 2 ans et demi. Il sera le président du Conseil européen. Mais évidemment, son poids sera très faible par rapport à celui des présidents ou des premiers ministres de chaque pays. Enfin, il y a quelqu'un qui reprendra l'Europe, théoriquement. Deuxièmement, il y aura un ministre des Affaires étrangères. Mais il y en avait déjà, il s'appelait pas comme ça, il s'appelait haut représentant pour la politique extérieure. Il augmente les pouvoirs du Parlement européen. Il double le nombre de domaines qui sont régis par le système que j'évoquais la semaine dernière de co-décision. C'est-à-dire que le Parlement et le Conseil co-décident dans un nombre croissant, décideront s'il est ratifié dans un nombre croissant de domaines. Donc il y a une partie institutionnelle qui a tout à fait sa place dans ce qu'on pourrait appeler une constitution. Vous avez parlé tout à l'heure de la charte des droits sociaux fondamentaux. Cette charte a été élaboré en l'an 2000 et lors du Conseil européen, du sommet donc européen de Nice en décembre 2000, elle a été proclamée, mais elle n'avait pas de statut. Là, elle est incorporée dans le traité, dans la Constitution, c'est la deuxième partie du traité. Alors, si vous voulez, on dira un mot du contenu de cette charte, dont certains nous rebattent les oreilles. Et puis, il y a une troisième partie, elle qui n'a strictement rien à voir avec une Constitution, qui est la compilation de toutes les politiques menées depuis le début de la construction européenne. Et toutes ces politiques, ou quasiment toutes, sont des politiques libérales, qui ont été décidées par les mécanismes que je décrivais la semaine dernière, c'est-à-dire en l'absence totale de contrôle parlementaire, et encore moins de contrôle des citoyens. Et il s'en prend tous les jours des décisions. Et c'est cet empilement-là qui figure dans le traité. Alors on peut se dire, mais pourquoi diable mettre ça dans le traité ? Dans une constitution, parce qu'une constitution, normalement, partout dans le monde, c'est un texte qui fixe l'organisation des pouvoirs publics, les pouvoirs des uns par rapport aux autres, mais il n'y a pas, dans la constitution française, il n'y a pas le code des impôts, l'ensemble des lois françaises ne sont pas dans la constitution française. Alors, l'intention de mettre ça et l'insistance qu'il y a eu à mettre cette partie qui est la plus grosse de toutes et de très loin hein, en nombre d'articles, eh bien elle est suspecte. Elle s'apparente à un véritable coup d'état idéologique. Il s'agit de donner une valeur constitutionnelle, je mets des guillemets parce que ce traité n'est pas une constitution au sens propre du terme, c'est un traité exactement comme les précédents. Il vise donc à donner une valeur emblématique constitutionnelle à des politiques qui, elles, sont des politiques conjoncturelles et qui relèvent de choix politiques. C'est-à-dire que la Constitution ne nous permet pas de choisir autre chose que ce qui a déjà été décidé. Le voter ne sert plus à rien puisque les grandes décisions, non seulement ont déjà été prises, mais sont dans la Constitution. Le libéralisme, en quelque sorte, est sanctuarisé et institué comme doctrine, dogme, catéchisme ou religion d'État de l'Union européenne et rend vaines les alternances. Parce que même si un pays très majoritairement veut par exemple considérer que c'est pas la concurrence qui doit être la valeur suprême, mais la coopération, il peut pas le faire.
Et traité constitutionnel, ça a une validité juridique ou comment ils vont se débrouiller ? Ça pourra pas se...
C'est une appellation que, comme ça, un peu controuvée. Mais au début, ça peut être traité constitutionnel. Maintenant, il s'appelle constitution. Et il dit c'est un traité instituant la constitution européenne. Il s'appelle constitution. Mais une constitution, ça, c'est pas comme ça qu'on la fabrique. Il y a une assemblée constituante qui est élue. Elle élabore un projet de constitution. Elle a un mandat du souverain. Le souverain, c'est le peuple. Et elle élabore un texte qui ensuite est ratifié par le Parlement ou par le référendum. Là, ça s'est pas du tout fait comme ça. C'est un rassemblement de personnes, de 105 personnes issues du Parlement européen, des Parlements nationaux, mais ne représentant qu'elles-mêmes, qui ont élaboré ce texte sous leur responsabilité. Et ensuite, ce texte a été refusé et corrigé par les gouvernements. Mais c'est un abus de langage que de l'appeler constitution. Mais si on tient tant à l'appeler constitution alors que ça n'en est pas une, parce qu'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de peuple souverain européen, il y a une juxtaposition de peuple européen, l'intention est suspecte. C'est pour faire, rendre irréversible le caractère libéral des politiques européennes.
Des sous et des hommes en compagnie de Bernard Cassen, qui avait l'air de dire dans sa dernière intervention, finalement, ce qu'on entend un petit peu à droite et à gauche.
À droite surtout.
par certains, que finalement la Constitution va graver dans le marbre, hein, puisque c'est devenu la formule type, le libéralisme. Alors évidemment, il y en a plein d'autres qui lui disent, mais non, mais pas du tout, ça n'a jamais empêché les autres traités qui existaient déjà avant, et la politique finalement n'a jamais changé, ça n'a jamais empêché de faire des mesures sociales. Enfin, moi j'ai entendu ça hein, dans les autres radios.
Ah, oui, on entend évidemment sur beaucoup de radios d'énormes erreurs, d'énormes contre-vérités et proférées par des personnes qui ont des hautes fonctions dans certains partis. Ou bien ils n'ont pas lu le traité, ou bien, ce qui me paraît beaucoup plus grave, ils se moquent carrément de l'auditeur. Alors, oui, je disais que ce traité vise à graver dans le marbre les politiques libérales. Sinon, pourquoi avoir mis cette partie 3 ? Les gens qui disent ça, vous devriez leur demander, mais pourquoi est-ce que vous avez tenu à mettre des politiques dans une constitution alors qu'elles ne doivent pas y figurer ? Une constitution doit permettre des alternances. On peut avoir une politique A ou une politique B ou une politique C. Là, on peut pas avoir de politique A, B, C. On peut avoir que la même politique pour les domaines essentiels. Par exemple, la monnaie, qui est quand même un outil majeur de la politique, elle n'est plus entre les mains des gouvernements, donc des citoyens, elle est entre les mains d'une banque centrale irresponsable. Le budget est contrôlé par ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance, encore qu'il est en chute libre en ce moment. Et par ailleurs, la fiscalité, elle est soumise au moins 10 ans par la concurrence des systèmes fiscaux. On est donc toujours tiré vers le bas. Alors d'aucuns disent, mais oui, mais regardez à quel point ce traité est social, puisqu'il y a même la charte des droits sociaux fondamentaux. Eh bien, parlons-en un tout petit peu de cette charte des droits sociaux fondamentaux. Cette charte, qui a été, je le disais tout à l'heure, proclamée à Nice, ne comporte strictement aucune avancée sociale. Elle comporte même beaucoup de reculs sociaux par rapport aux législations, à la législation française, mais également aux textes de l'ONU ou du Conseil de l'Europe. Le droit de grève y figure, mais il a fallu 6 semaines de bagarres terribles à l'époque pour que le droit de grève y figure. Mais il figure droit de grève pour les salariés et pour les employeurs. C'est une nouveauté, c'est une innovation. Le droit au travail, qui est dans la Constitution française, évidemment il n'est pas appliqué, mais il n'existe pas. Là, on parle du droit de travailler. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de vous empêcher de travailler. C'est un droit de travailler. Mais on ne donne pas le droit à avoir un travail, etc. C'est donc une accumulation de... Il y a des choses très très justes, mais qui ont été déjà dites 20 fois, 100 fois, donc c'est pas la peine de les rappeler. Et tous les pays membres ont adhéré, d'ailleurs, à des conventions internationales qui les rappellent. Donc cette charte sociale n'apporte strictement à rien. D'autre part, elle n'a aucune valeur contraignante. Elle n'a de valeur contraignante que pour les actes qui sont issus des décisions de l'Union européenne, pas pour les autres. Et les Anglais se sont arrangés pour la vider de tout sens. Donc on peut difficilement se prévaloir de cette charte pour dire qu'il y a une avancée sociale colossale. Il n'y a strictement aucune avancée sociale dans ce texte. Ça fait simplement 20 ou 30 pages de plus dans le traité.
Il y a un autre argument qui est utilisé, parce qu'on dit donc gravé dans le marbre, ce qui suppose quelque chose ensuite d'intangible. Et beaucoup disent, mais pas du tout, en vérité on pourra quand même changer, il suffit qu'il y ait une majorité,
non,
etc.
Non, il ne faut pas qu'il y ait une majorité, il faut qu'il y ait une unanimité. Si vous voulez changer une virgule seulement, un mot, c'est que vous en changez un ou mille, c'est une modification. Il faudra pour cela obtenir l'unanimité des États signataires, 25. Faute de quoi, c'est pas possible. Donc, les États signataires obéissent chacun à des calendriers électoraux nationaux différents. Vous n'aurez jamais une coïncidence des décisions politiques prises dans chacun des pays. Alors vous aurez à un moment donné un gouvernement se réclamant de la gauche, un autre réclamant de la droite. Il sera impossible de bouger une virgule à ce traité sans l'accord unanime. Ce qui veut dire que c'est le moins-disant qui aura toujours le dernier mot. Il suffit d'un pays pour bloquer. Le Luxembourg s'opposera toujours, évidemment, à une législation qui lèverait le secret bancaire ou les paradis fiscaux. Le Royaume-Uni se battra à la dernière livre sterling pour empêcher toute avancée sociale. Le Royaume-Uni de Monsieur Blair, le travailliste, membre de l'Internationale socialiste. Donc, la règle de l'unanimité pour la révision du traité empêche effectivement la révision. Donc vous avez deux choses, vous avez un corpus libéral qui est injecté dans le texte, et puis après il y a un verrou qui est mis là-dessus, et puis donc, on passe à la suite. On peut discuter de tout après, sauf de ce qui est dans le traité, puisqu'on ne pourra pas le modifier.
Mais peut-être que
D'ailleurs Giscard d'Estaing a dit que ce traité était là pour 50 ans. Donc nous risquons d'être condamnés à environ 50 ans de peine incompressible de néolibéralisme.
Peut-être qu'on pourrait dire que ce traité, ou qu'on pourrait penser que ce traité ne va pas forcément être, comment on pourrait dire, contraignant. On pourrait se dire, mais d'accord, d'accord, le traité sera un peu libéral, mais si on veut quand même suivre des politiques de gauche, prôner une relance
keynésienne. Vous pouvez pas. Bon, un traité a une valeur supérieure à la loi nationale. Il s'impose aux législations nationales. Il s'impose même aux constitutions nationales. D'ailleurs, en France, avant que le traité soit soumis à ratification, il y aura une révision constitutionnelle. On adaptera la constitution au traité. Donc, mais ça, c'est valable pour tous les traités, parce que l'on pense qu'un traité est une norme supérieure à celle de la loi nationale. Alors, supposons qu'on veuille, par exemple, pratiquer une politique de relance. Pourquoi pas? Ça s'imposerait vu le contexte actuel d'augmentation du chômage et de la précarité. Ben, pour une politique de relance, ça veut dire une politique de déficit budgétaire. C'est-à-dire, il faut investir de l'argent en espérant que ça créera des emplois et que les rentrées fiscales permettront de se refaire. C'est impossible. Le pacte de stabilité l'interdit. Même s'il il a été violé par la France et l'Allemagne, mais encore plus grossièrement par les Grecs qui ont carrément truqué. Et d'ailleurs, personne s'en est aperçu et ça n'a rien changé. Ce qui montre un petit peu que ces fameux critères n'étaient pas très sérieux. Mais on n'a pas le droit de le faire parce que vous savez, si vous dépassez les normes fixées par le pacte de stabilité, vous pouvez être astreint à une amende, à une des sanctions financières. Le traité le prévoit, le pacte le prévoit. Donc il sera impossible de faire des politiques autres que celles qui sont encadrées par les normes du traité. Et par exemple, la Banque Centrale Européenne s'opposera mordicus à toute relance dans un pays donné. Donc il est mensonger de prétendre que ce traité peut être utilisé par des gouvernements de gauche ou de droite. Non. D'ailleurs, soyons sérieux, on n'a pas vu depuis un quart de siècle de politique de gauche, que je sache, conduite en Europe. Aujourd'hui, il y a une continuité absolue des politiques menées depuis 25 ans, que ce soit sous Mitterrand ou sous Chirac. C'est les mêmes politiques à de menus variantes près. Mais prenez le cas des retraites. Les retraites, l'augmentation des durées de cotisation, ça a été décidé en France là, l'an dernier, après malgré des mobilisations très importantes, mais ça avait été décidé en fait par Chirac et Jospin lors du sommet européen de Barcelone. Ils avaient prévu d'augmenter de 5 ans la durée du travail. Et après, on l'applique en France. Schröder fait la même chose en Allemagne. Il y a une politique unique qui est conduite partout. Il n'y a aucune variante. Et tant qu'on reste dans les normes de traité, on ne peut pas faire autre chose. Donc on pourra faire des alternances, mais pas des alternatives.
Mais alors les politiques, enfin certains politiques de gauche, hein, puisque Fabius a pris un petit peu ses distances, et puis il y en a d'autres aussi qui prennent un peu leur distance par rapport à ça, j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi la gauche ne se lève pas en masse contre ce traité. Ils sont...
Ben oui, c'est une question, ça, oui. Je dirais que... Enfin, la gauche. Enfin, les partis se réclament de la gauche. Même le mot, je suis pas sûr que ça leur plaise beaucoup à certains. Le mot gauche, hein. Ils parlent de réformisme. Ben, je pense que les élites des partis de gouvernement de gauche sont ralliés au libéralisme, dans leur tête. Le libéralisme est dans leur tête. Et ils n'ont aucune volonté de rompre avec cela. Il faut dire que rompre, ça réclame du courage politique. C'est des risques politiques. Ils ne sont pas prêts à les prendre. Ils sont dans un conformisme total. Ils acceptent d'en avoir que des marges de manœuvre de 0,001% par rapport à des gouvernements dits de droite, parce que les gouvernements de droite ne se gênent pas. On voit le gouvernement Raffarin qui est injustement accusé d'être un mauvais gouvernement, c'est un formidable gouvernement pour le libéralisme. Il avance sur tous les fronts et très fort, très très bien. On a tort de dire que Raffarin n'a pas de projet. Il a un projet néolibéral et il le met en œuvre avec beaucoup de cohérence. Mais dans le cas de ce traité, on aurait du Raffarin légèrement amélioré, mais très légèrement amélioré. D'ailleurs, on attend de la part de ces fameux responsables de gauche dont vous parlez, qui nous disent exactement, est-ce qu'ils vont renationaliser EDF, par exemple? Est-ce qu'ils vont revenir sur le régime, sur la prétendue réforme des retraites? Est-ce qu'ils vont renationaliser France Télécom, etc., etc. Là, vous verrez, on qui est de gauche et qui ne l'est pas, qui est libéral et qui ne l'est pas. Donc c'est vrai qu'il y a une pensée conformiste dans une partie de la gauche, ce qu'on appelle les sociolibéraux, qui finalement se satisfait très bien de tout ça. Le problème, c'est le peuple. Là, s'il n'y avait pas de peuple, ça marcherait tellement mieux. Mais ce peuple qui ou s'abstient, ou vote Front National... Et ça, pareil, on gémit au lendemain des élections régionales, cantonales ou présidentielles. Oui, mais regardez, le Front National, Maigret à l'époque, etc., etc. Mais pourquoi est-ce qu'il y a 20% des gens qui votent à l'extrême droite? Est-ce que c'est parce qu'ils sont à l'extrême droite? C'est des fascistes? Évidemment non. Ce sont très souvent des gens qui votaient à gauche, qui c'est un cri qu'il lance. C'est pas une adhésion aux thèses racistes ou fascisantes des chefs du Front National. Mais ça, on en parle que ce soit des élections, quelques jours après, puis après on revient comme si de rien ne s'était passé. Et donc, il y a un divorce qui se creuse entre les politiques et les politiques menées et les catégories populaires qui ne se sentent pas représentés, ne sentent pas que les décisions qui sont prises leur conviennent. Et le vote des élections européennes est à cet égard un témoignage éloquent.
Et donc c'était des souhaits des hommes pour la deuxième émission avec Bernard Cassen. Je voudrais vous redonner le site officiel qui nous parle de l'Europe, c'est http://europa.eu.int.
Et vous avez bien de dire que c'est un site officiel, c'est le site de la Commission européenne, donc c'est l'Europe vue à travers la Commission européenne. Alors tout ce qui est dit là-dedans, et c'est très précieux, je l'utilise d'ailleurs massivement comme tout le monde, mais disons que c'est une officine gouvernementale, c'est comme un site gouvernemental français, sauf qu'il est européen.
Oui, non, c'était bien dans cette optique-là, hein. C'est bien effectivement pour avoir la vulgate classique, on pourrait dire. Je voudrais vous signaler aussi un autre site qui pourrait peut-être être intéressant de visiter, ça s'appelle www.gauche-en-europe.org. On y trouve un club de réflexion qui est cofondé par Dominique Strauss-Kahn et Michel Rocard. Il y a un groupe de travail sur l'euroscepticisme qui est présidé par Pascal Lamy, ça doit être assez intéressant. Voilà.
Non, si vous y allez là, vous avez des dizaines de sites partisans. Le site dont vous venez de parler, c'est le site social libéral. Il faut l'appeler comme ça. Mais il y a énormément d'autres sites, ne serait-ce que les sites des autres fractions du Parti Socialiste, que ce soit le Nouveau Parti Socialiste ou Nouveau Monde. Il y a beaucoup, beaucoup de sites actuellement.
Dont je donnerai les références la semaine prochaine. Au revoir.